Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par
Martine Monti
avec à la réalisation Eliot Hugo-Mosin. Pourquoi parler d'agriculture dans cette émission Parlons des droits humains ? Agriculture et droits humains, cela peut sembler une association curieuse et pourtant. Si la sédentarisation progressive des groupes humains, l'émergence de l'agriculture et des premiers états, il y a des milliers d'années, avait représenté la première étape de la longue épopée du progrès, éloignant les êtres humains des incertitudes de la nature et donc de la nature elle-même. Si elle avait précipité les sociétés humaines dans un processus écocide et autodestructeur dont nous ne mesurons qu'aujourd'hui toute la gravité. La qualité de la vie humaine a commencé à se détériorer avec la domestication des plantes et des animaux, selon Paul Shepard, écologue et environnementaliste américain. Avec l'agriculture et l'élevage, sont apparues également les premières formes de stratification sociale, la centralisation du pouvoir, les premières armées, la surpopulation, les conflits agraires et la détérioration de l'environnement naturel. Mais cette thématique ne peut pas être abordée uniquement sur l'aspect historique. Aujourd'hui, l'agriculture est considérée par l'ONU comme un secteur à risque pour la traite des êtres humains, par l'emploi des enfants, l'exploitation des migrants et des femmes. Compte tenu de l'ampleur du sujet, nous avons choisi de décliner ce thème en deux émissions. Celle d'aujourd'hui traitera plus particulièrement de l'invention de l'agriculture et ses conséquences sur les sociétés humaines, et la seconde, en mai, des enjeux actuels de l'agriculture et des options possibles pour l'avenir. Nos auditeurs fidèles, s'il y en a, savent qu'habituellement nous animons cette émission à deux, Renaud Broukis et moi. Nous choisissons les sujets et nos invités ensemble. Aujourd'hui, pour cette thématique, notre invité est Renaud lui-même, en raison de ses connaissances en la matière. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale avec Jean Ferrat, Ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Renaud Broukis, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, cette fois, c'est vous qui êtes l'invité de l'autre côté du micro. Prenez quelques mots pour vous présenter. Pourquoi êtes-vous de ce côté-là aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, donc, j'ai une formation de biologie et de biochimie et j'ai fait une carrière de chercheur en biologie végétale à l'INRAE, l'Institut National pour la Recherche en Alimentation, Agronomie et Environnement. Bon, aujourd'hui, je suis retraité. Donc, pourquoi est-ce que j'ai travaillé dans les plantes, en fait ? D'une part, je pense qu'à l'université, j'ai eu un professeur qui dit les premières années de l'université m'a particulièrement fasciné et attiré vers les plantes. Et puis, j'ai trouvé toujours intéressant et fascinant cette capacité qu'ont les plantes à s'adapter à leur environnement. On n'a jamais vu une plante retirer ses racines de son trou pour fuir une contrainte. Donc, elles sont sur place, elles doivent rester et elles s'adaptent ou elles meurent. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc, du reste, j'ai mené pendant ma carrière des recherches sur l'adaptation des plantes aux contraintes de l'environnement, puis sur les légumineuses. Les légumineuses, haricots, soja, lentilles, etc.
On les détaillera un peu plus tard. Oui.
Voilà. Et j'ai travaillé en particulier sur la symbiose, c'est-à-dire l'association des légumineuses avec des bactéries du sol, et qui permet effectivement aux légumineuses de fixer l'azote atmosphérique et d'amender les sols, donc d'être un engrais naturel pour les sols.
Ce qui est en fait une recherche qui viserait à diminuer les engrais phytosanitaires qui sont...
Pas uniquement. Moi, je menais des recherches fondamentales pour savoir comment ça fonctionne. Donc, à terme, effectivement, on peut retrouver l'utilisation des légumineuses comme engrais vert, comme ça a été fait pendant des centaines d'années, des milliers d'années même. Et puis, deuxième point, c'est que les légumineuses sont des sources de protéines végétales. Ce sont les graines végétales les plus riches en protéines. Et donc, elles sont intéressantes de ce point de vue-là.
Et parallèlement à ces recherches, vous avez développé un attrait particulier pour communiquer, vulgariser vos connaissances, raconter des histoires sur les plantes et transmettre. Comment faites-vous ? Maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez un peu plus de temps pour le faire ?
Oui, alors déjà j'aime bien raconter des histoires, donc ça a facilité les choses. Et j'interviens en milieu scolaire, en général en collège, voire en lycée, pour raconter justement l'histoire de ce que sont les êtres vivants, les végétaux en particulier, pour décrire un peu ce que sont les légumineuses. Et puis, de fil en aiguille, le fait de travailler sur les légumineuses, ça m'a incité à comprendre et rechercher pourquoi est-ce qu'on les cultivait, pourquoi on les mangeait. Et ça m'a ramené effectivement aux origines de l'agriculture, où céréales et légumineuses ont été cultivées d'entrée de jeu. Et à partir de ça, moi, j'ai pris l'habitude de donner des conférences grand public justement sur l'histoire de l'agriculture en France et l'intérêt des légumineuses d'une manière générale pour l'agriculture durable.
Donc ces trois thèmes vont être un fil conducteur tout au long de notre émission. Donc j'ai tenté d'expliquer dans l'introduction pourquoi nous évoquons l'agriculture dans une émission liée aux droits humains. Vous-même, comment êtes-vous parvenu à lier ces deux concepts ?
Eh bien parce que l'agriculture est née il y a à peu près 12 500 ans, hein, 10 500 ans avant notre ère, dans le croissant fertile. Et l'invention de l'agriculture a jeté les bases des sociétés actuelles, en termes de structure, d'organisation, de fonctionnement, etc. Donc l'agriculture au sens large, à la fois le travail de la terre et l'élevage, a généré la création des premières cités, des premiers états, royaumes, empires, etc. Et cela a donné des sociétés humaines dans lesquelles les relations entre individus ont été organisées, codifiées, et c'est ainsi qu'on a eu l'apparition des hiérarchisations sociales, des inégalités entre les citoyens, l'apparition des droits et des devoirs des individus et des collectivités, etc. Et si pour nous la notion de droit de l'homme, telle qu'elle est connue aujourd'hui dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, est assez récente, la nécessité d'établir des codes et des règles de vie en société est évidemment bien plus ancienne.
Et est-ce que vous avez un exemple à ce sujet ?
Je pense par exemple au cylindre de Cyrus, hein, qui date du premier millénaire avant Jésus-Christ, et qui déjà, donc, à l'époque, dans le royaume de Sumer, Mésopotamie, décrète des droits pour les gens, pour tous les gens, tels que l'égalité raciale, la tolérance religieuse, l'abolition de l'esclavage, la liberté de choix de profession, le droit au retour au pays, etc. Des principes qui restent d'ailleurs toujours d'une actualité brûlante. Donc pour moi, effectivement, le lien entre l'agriculture, la structure de la société et les droits de l'homme est assez naturel.
Donc on va repartir effectivement sur l'invention de l'agriculture. Plus précisément, comment a-t-elle changé et réorganisé les sociétés humaines depuis l'origine jusqu'à nos jours ?
Eh bien, il faut remonter pour ça à l'apparition du genre humain, genre homo, il y a à peu près 3 millions d'années, qui, jusqu'à l'apparition de l'agriculture, a été un ensemble de sociétés de type chasseur-cueilleur. Les gens ont prélevé sur le milieu leur nourriture. On appelle ça la prédation. Donc, c'est toute la période du paléolithique, grosso modo. Et avec l'invention de l'agriculture, on passe au néolithique, ce que l'on a appelé la révolution agricole du néolithique, avec un passage progressif des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs, des nomades, principalement aux sédentaires, des prédateurs aux producteurs de nourriture. Donc, à ce moment-là, les hommes vont domestiquer des plantes sauvages qu'ils vont cultiver et reproduire pour se nourrir. Et il en sera de même pour la domestication des animaux. L'agriculture étant sédentaire et produisant de grands excédents, cela mène donc les hommes à se fixer davantage, à stocker la nourriture, à se rassembler dans des agglomérations de plus en plus grandes, à développer les échanges commerciaux, etc. Et donc, l'agriculture va avoir un très fort impact sur les modes d'alimentation, d'une part, de vie et d'organisation des sociétés humaines, d'autre part.
Mais comment peut-on parler d'une agriculture ? Parce qu'en fait, le monde est divers, divers dans justement les plantes et les végétaux, divers dans les humains, puisqu'ils n'étaient pas implantés de la même façon dans toutes les régions du globe. Et quelles sont les constantes que vous avez remarquées qui semblent universelles malgré la diversité des cultures ?
Alors oui, effectivement, les sociétés humaines ont adopté la culture et la consommation de deux nourritures essentielles dans la plupart des cas, à savoir les céréales et les légumineuses. Les céréales parce qu'elles sont riches en amidon, elles sont également sécurisantes en termes de calories, ça procure des cultures rapides et efficaces avec de bons rendements. Et les légumineuses, elles, sont riches en protéines, justement, qui est un apport absolument indispensable pour la santé.
Et les deux se conservent facilement aussi.
Et les deux se conservent facilement, à température ambiante, et tout en conservant leur qualité nutritionnelle. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des sociétés qui se sont bâties sur la consommation de tubercules, pommes de terre, manioc, igname, etc. D'autres sociétés se sont nourries principalement de fruits, bananes, arbres à pin, châtaignes, etc. D'autres sociétés encore de poissons, comme les Inuits, ou dans le Sahel, au Sahara, essentiellement de lait. Mais pour des raisons d'ordre géographique, climatique ou politique, elles n'ont pas été généralisées comme nourriture principale et universelle, comme ça a été le cas pour les céréales et les légumineuses.
Et est-ce que vous pouvez définir les origines de l'agriculture ? Enfin, agriculture, il y a la domestication des végétaux, puisqu'on parle effectivement des végétaux et des animaux. Mais où et quand apparaît-elle ? Est-ce qu'elle est similaire dans toutes les régions du globe ? Est-ce qu'il y a une thématique commune, une concomitance de cette apparition d'agriculture ?
Alors, il n'y a pas concomitance. En revanche, il y a plusieurs berceaux de la naissance de l'agriculture. Quand je parle de berceaux, c'est de lieux où l'agriculture a été inventée. Le premier berceau de l'agriculture, c'est la Méditerranée, le croissant fertile, il y a 12 500 ans, avec la domestication et la culture du blé, de l'orge, du seigle comme céréales, pois chiches, fèves, lentilles comme légumineuses. Ça, c'est vraiment le premier berceau. Il y a deux autres berceaux en Chine, qui sont plus récents, il y a 9000 ans, où ont été domestiqués le riz, le millet, le soja. Il y a également trois berceaux très importants en Amérique, il y a 9000 ans à peu près également, avec le maïs, le quinoa, l'amarante, les haricots, l'arachide, qui ne sont pas des légumineuses mais très importants pour la nourriture, c'est la pomme de terre, le manioc, les courges, le tournesol, la tomate, etc. Il y a un berceau plus récent en Afrique, il y a à peu près 4000 ans, où ont été domestiqués le riz africain, le sorgho, le mil, hein, comme céréales. Comme légumineuses, ce sont ce qu'on appelle les doliques, qui sont des sortes de haricots, ça ressemble à des haricots. Le plus connu est le niébé. Mais il y avait l'igname également, hein, qui est un tubercule. Et puis le dernier berceau qui a été vraiment identifié, c'est la Nouvelle-Guinée, hein, il y a 9000 ans également. Et là, ben, ce sont les bananes, la canne à sucre et le taro, hein, qui est également un tubercule, qui ont été domestiqués. Donc, tous ces berceaux sont apparus de façon indépendante les uns par rapport aux autres.
Oui, parce qu'il n'y avait pas d'échanges commerciaux. Il n'y avait pas d'échanges à ce moment-là.
Et on retrouve finalement des céréales et des légumineuses dans tous, sauf en Nouvelle-Guinée, hein, qui est un archipel, une île qui avait peu de relations avec les autres à ce moment-là.
Et alors, les liens avec l'agriculture, dans le sens de culture des plantes, avec la domestication des animaux et l'élevage, c'est sans doute lié, parce que les peuples nomades continuent à faire de l'élevage en bougeant. Effectivement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les plantes, ça se déplace pas facilement. Mais à partir du moment où il y a eu agriculture, il y a eu forcément élevage et domestication des animaux.
Alors oui, parce que le processus de domestication est le même pour les végétaux et les animaux. En fait, l'homme cueillait des espèces de plantes sauvages ou chassait des espèces animal sauvage qu'il consommait ou utilisait pour ses besoins alimentaires, vestimentaires ou autres. Et le processus de domestication consiste en fait à sélectionner parmi ces espèces animales ou végétales sauvages les individus les plus intéressants en termes de critères de sélection tels que la taille du grain, le nombre de grains, la quantité de lait pour un animal ou sa force de traction, etc. Et à reproduire ces espèces pour en tirer le plus de bénéfices possible sur le long temps. Ainsi, par exemple, pour les céréales, les premiers agriculteurs ont sélectionné des variétés qui donnaient le plus de grains et donc de farine, ainsi que des variétés avec des épis non brisants, ce qui veut dire que lorsqu'il fallait récolter effectivement les épis, eh ben, ils étaient encore sur leur tige, ils n'étaient pas tombés à terre, donc c'était plus facile. Donc ce type effectivement de plants a été sélectionné.
Donc déjà, à ce moment-là, il y avait la sélection des plantes.
Dès le début, il y a eu de la sélection des plantes, à leur manière et en fonction de leurs critères, bien entendu. Et finalement, la domestication animale et l'élevage se sont développés quelques centaines d'années après l'agriculture. Les ovins, caprins, bovins ont été domestiqués pour le lait, la viande, et puis leur force de traction, bien entendu.
On les a utilisés aussi en outil.
Comme outil, ben, la force de traction, c'est pour l'outil, effectivement, que représentent ces animaux. Et puis la domestication des félins, ça c'est pas pour la force de traction, mais c'est pour chasser les rongeurs qui s'attaquaient aux aires de graines, par exemple.
Et donc l'agriculture a directement entraîné la sédentarisation, ou celle-ci aurait existé de toute façon ? Parce que se grouper, se sédentariser, c'est se protéger contre les bêtes sauvages, c'est regrouper les collectivités. Est-ce que c'est vraiment l'agriculture qui est l'origine de la sédentarisation ?
Alors non. La sédentarisation, en fait, a précédé l'agriculture à grande échelle. Elle est apparue là où la nourriture était toute l'année disponible et en quantité suffisante. Le meilleur exemple que l'on connaît, c'est certainement le plus ancien, c'est la civilisation natoufienne. Le Natouf, c'est un fleuve de Palestine. Civilisation qui est née il y a 14 500 ans à peu près, où on a observé une sédentarisation avec les premiers villages de chasseurs-cueilleurs sans agriculture. Et là, effectivement, les gens se sont regroupés en villages de quelques centaines d'individus. Ça n'allait pas plus loin que ça, mais c'était déjà pas mal. Mais cela dit, l'agriculture n'est pas nomade et génère des excédents, ce qui fait que, avec l'agriculture, la sédentarisation se généralise radicalement avec le regroupement des communautés humaines en villages, etc. Et les quantités récoltées permettent de nourrir beaucoup plus de personnes, et donc les villages grossissent et deviennent des villes, puis des cités de plus en plus grandes et donnent des états.
Et pourquoi l'agriculture apparaît-elle à un moment particulier de l'histoire de l'humanité ?
Alors, en fait, ça reste une énigme. Il y a des hypothèses qui ont été émises. Mais c'est sûr qu'elle apparaît à un moment de période de réchauffement climatique. On est à la fin de la dernière grande période glaciaire qui a eu lieu entre moins 110 000 ans et moins 20 000 ans avant notre ère. Il y a 14-15 000 ans, il y a un léger basculement de l'axe de rotation de la Terre qui fait que ce réchauffement est encore plus fort. Et entre moins 20 000 et, 10 000 et moins 10 000 ans, c'est-à-dire au moment où l'agriculture va commencer à naître, la température globale de la Terre augmente d'environ 4 degrés. C'est considérable, surtout quand on fait référence à l'augmentation des températures qui sont prévues pour nous à la fin du siècle. Et les températures élevées, à ce moment-là, favorisent la croissance des végétaux et, entre autres, des légumineuses et des céréales. Il y a un autre facteur qui a été avancé, c'est l'évolution cérébrale des Homo sapiens, hein, savoir que l'agriculture, en fait, nécessite une maîtrise minimale des techniques de culture, d'élevage, de récolte, de stockage, de conservation et de protection des aliments. Et il y a moins de 12 000 ans, effectivement, ces techniques étaient maîtrisées déjà.
Donc, se nourrir est un besoin vital essentiel. Pouvez-vous nous résumer en quelques points forts le besoin de contrôler la production? Donc, on a parlé effectivement de lutter contre les mauvaises périodes, etc. Il y a d'autres avantages?
Alors, non, effectivement, il y a effectivement le besoin de sécuriser l'alimentation, hein, pour passer les mauvaises périodes, que ce soit les mauvaises saisons, sèches, froides parfois, etc., ou les mauvaises années, parce que le climat était tel que pendant plusieurs années, on pouvait avoir de très très mauvaises récoltes, hein, ou de très mauvaises cueillettes, justement. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est que le mode de vie sédentaire est plus facile que le mode de vie nomade. On n'a pas besoin, une fois qu'on est implanté quelque part, de démonter sa tente et de transporter en permanence tous ses biens pour suivre les lieux de cueillette ou les troupeaux d'animaux que l'on chasse. Par ailleurs, on se trouve dans un contexte d'augmentation de la population. Avec les civilisations sédentaires, les femmes ont plus souvent des grossesses, une fois par an contre une fois tous les 3-4 ans pour les nomades. On assiste à une baisse déjà de la mortalité infantile, une baisse de l'âge de la puberté. Tout ceci fait que on estime que s'il y a à peu près 10 000 ans, la population mondiale était de 2,5 millions d'habitants, à 5 millions, au début de notre ère, elle était de 250 millions d'habitants, donc ça a énormément augmenté. Et puis, dernier argument, on pense, et ça ce sont les théories de Jacques Covin, hein, l'anthropologue, que ça va avec l'évolution de la conscience et ce qu'on a appelé la révolution des symboles. L'Homo sapiens, finalement, a pris conscience d'être différent de la nature, de se sentir au-dessus, et sans doute autorisé à s'approprier et contrôler les autres êtres vivants à son profit.
Oui, donc c'est toute une évolution culturelle à ce moment-là. Donc, on a évoqué tout le contexte historique, la naissance de l'agriculture. On a vu qu'elle a bouleversé l'organisme et le fonctionnement des sociétés humaines. Pour vous, elle a changé au moins sur deux points importants qui sont...
Alors, la transformation de la ration alimentaire, effectivement, et puis la structuration de la société, d'autre part. La transformation de la ration alimentaire, eh bien, avec en particulier une abondance de nourriture, mais une réduction de la diversité. Pour les sociétés chasseurs-cueilleurs, c'était des omnivores qui mangeaient des jeunes pousses, des racines, des fruits, des bulbes, des vers, des insectes, des poissons, un peu de viande, etc. Donc une nourriture relativement diversifiée. Et elle passe progressivement à une alimentation essentiellement végétale, hein, principalement une céréale, accompagnée de légumineuses, et puis en conservant quelques fruits, herbes et différents types de légumes, un petit peu de lait, un peu de viande. Donc, grosso modo, c'est une alimentation végétale plus abondante, mais moins variée.
Le productivisme a-t-il donc structuré différemment ces sociétés humaines ? Parce qu'en fait, il a fallu produire plus, puisque les villages augmentaient. Vous avez parlé tout à l'heure de la fertilité des femmes. Effectivement, quels sont les principaux éléments de transformation? Puisque là, on va rentrer vraiment dans la notion de société humaine.
Oui. Je vous ai dit également que l'agriculture produisait de gros excédents. Ce qui va amener finalement à spécialiser les activités des gens. Les agriculteurs-éleveurs vont rester agriculteurs-éleveurs, ils vont se consacrer à l'agriculture, mais tout autour d'eux vont se développer les corps des artisans, hein, des tailleurs de pierre, des potiers, des charpentiers, des forgerons, maçons, tisserands, etc., hein, qui vont permettre de fabriquer tous les outils de production, de vêtir les gens, etc. Ensuite, comme on va générer de grandes quantités de grains, de têtes de bétail, il va falloir comptabiliser tout ça. Donc les comptables vont apparaître. Du fait des excédents, on va pouvoir échanger avec les villages, les villes voisines, les sociétés voisines. Le commerce va se développer à partir de ce moment-là. Et puis, comme les villages vont grossir, on va se retrouver avec des villes de plusieurs milliers d'habitants, il va falloir gérer tout ça, organiser tout ça. Et c'est l'apparition des administrateurs, hein, politiques et religieux. Et puis, comme effectivement la production génère de grandes quantités de nourriture, ça va susciter la convoitise des voisins. Donc, il va falloir défendre ces richesses alimentaires, et c'est l'apparition systématique des guerriers. Finalement. Donc, tout ceci, ces différents métiers vont amener très rapidement une hiérarchisation de la société. Comme par hasard, on va retrouver les éleveurs et les agriculteurs en bas de la hiérarchie, et puis au sommet, les administrateurs et les guerriers.
Vous avez mentionné dans une de vos conférences que l'agriculture a été la pire erreur de l'humanité. Pourquoi ?
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai prétendu. C'est dans les années 60-70, hein, certains anthropologues, dont Marshall Salin aux USA, qui ont remis en question le mythe selon lequel l'invention de l'agriculture aurait été un réel progrès qui aurait fait faire un bond évolutif aux hommes et leur aurait permis de ne plus courir après la nourriture. Et ensuite, c'est le biologiste et géographe Jared Diamond qui, en 1987, a écrit un article selon lequel, pendant longtemps, l'agriculture a été la pire erreur de l'histoire de l'humanité.
Et est-ce que vous pouvez décliner, en les citant, sans rentrer dans les détails, les impacts sociétaux et les impacts alimentaires de cette erreur, en fait, entre guillemets.
Effectivement, d'après eux, l'agriculture a généré plus de travail. Hein, il fallait 3 heures de travail par jour pour un chasseur-cueilleur, on passe à 8. Du fait de la promiscuité humaine avec la création des villes, vont se développer énormément d'épidémies, de zoonoses, d'autant plus que les animaux qui sont domestiqués vont transmettre leurs maladies. C'est l'apparition des systèmes de taxes et d'impôts, l'accroissement des inégalités sociales, l'explosion des conflits et des guerres avec comme objectif d'annexer les territoires, mais également de se fournir en main-d'œuvre. Et ça va être la généralisation de la servitude et de l'esclavage. Les systèmes agricoles que l'on connaît, de cette époque jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, repose sur la servitude et l'esclavage. Hein, donc, prisonniers de guerre, hommes, femmes, enlèvement de populations forcées, etc. Et effectivement, la mise à disposition pour les États d'une main-d'œuvre à bas coût permettait de réaliser des travaux, mais colossaux, comme l'agriculture, c'est très pénible, de creuser des canaux d'irrigation, de tracer des routes, de monter les murs des villes et des cités, et puis parallèlement d'exploiter les mines, d'exploiter la forêt, etc. Et donc, lorsqu'une cité ou un État était vaincu par la force, ces sujets devenaient souvent serviteurs ou esclaves. Et ces populations souvent étaient déportées, les villes étaient détruites, etc., etc.
Merci donc pour cette première partie très dense au niveau des informations. On va prendre le temps d'écouter une chanson « Debout dans les champs ».
Au lever du jour, quand la ville dort encore, ils sont déjà debout, le dos lourd mais le cœur fort. La terre sous les ongles, les factures sur la table. Travailler sans compter, mais vivre devient instable. On parle de chiffres, de normes, de papiers. Eux parlent de saisons, de pluie, de blé. Oui, entre les marchés et les promesses fanées, ils nourrissent le pays. Mes peines à manger. Debout dans le champ, même quand tout vacille, on tient la France des campagnes aux villes. On ne demande pas leur juste du respect pour nos villes, nos terres, notre dignité. Debout dans le vent, sous la pluie, sous le temps, on veut vivre de notre travail simplement. Écoutez nos silences, nos cris étouffés, sans paysans, demain ne peut pas pousser. Les traités signés loin des tracteurs, le prix du lait plus bas que la sueur. On nous parle d'avenir, de vers, de progrès. Mais seul face aux dettes, on est souvent oublié. Ce n'est pas qu'un métier, c'est une transmission. Des prénoms gravés dans chaque saison. Quand une ferme ferme, c'est un village qui saigne. Un feu qui s'éteint dans la campagne. Debout dans les champs, même quand tout vacille, on tient la France des campagnes aux villes. On ne demande pas l'or, juste les respects pour nos minotaires, notre dignité. On n'est pas contre demain ni contre le changement, mais pas sacrifié au nom du rendement. Donnez-nous les moyens, pas des leçons. Laissez-nous cultiver avec raison. Debout dans les champs, on ne lâchera pas. Parce que sans racines, un pays ne tient pas. Regardez nos mains, écoutez nos voix. La terre nourrit ceux qui prennent soin d'eux.
Nous reprenons l'émission Parlons des droits humains, ce soir sur l'agriculture, les sociétés et les droits humains, avec notre invité Renaud Broukis. Nous avons évoqué dans les aspects négatifs de l'agriculture, ce qui concernait les impacts sociétaux. Qu'en est-il des impacts alimentaires ?
Eh bien, si légumineuses, céréales sont intéressantes parce qu'elles fournissent effectivement des calories, des protéines, etc., ce sont quand même des nourritures à double tranchant parce qu'elles ont un impact sur globalement la santé des gens et leur capacité de digestion. Ce nouvel élément qu'est l'amidon, il faut que les gens soient capables de le digérer. Tout le monde n'est pas égal vis-à-vis de la capacité de digérer de l'amidon. Par ailleurs, dans les graines, vous avez pas mal de molécules qu'on appelle des agents antinutritionnels qui rendent la digestion extrêmement difficile et qui même à haute dose peuvent provoquer des maladies. Donc il faut être capable de s'adapter à ce genre de molécules ou de les éliminer. Par ailleurs, les céréales et les légumineuses sont riches en fibres, en minéraux, en vitamines B et E de manière générale. En revanche, elles présentent des carences en termes de vitamine D, de vitamine B12, en termes de fer. Et donc les conséquences de tout cela sont qu'avec les débuts de l'agriculture, on a assisté, quand on regarde les squelettes de l'époque, on voit des squelettes anémiés, des squelettes plus graciles, une diminution de la taille des individus, au moins au début, des lésions osseuses, des pathologies articulaires, les caries dentaires datent de cette époque. Et grosso modo, au début, on a eu une baisse transitoire de l'espérance de vie.
Mais en fait, les hommes, ils ont dû s'adapter à ces nouveaux aliments.
Ah oui, sinon ils seraient morts.
Physiquement, non, mais je veux dire, physiquement, leur corps a absorbé effectivement ces nouveaux éléments. Et en même temps, culturellement, ils ont appris à manger des choses nouvelles.
Exactement. Il y a eu une double adaptation culturelle et biologique, effectivement. D'abord culturelle, déjà par la sélection empirique dès le début de l'agriculture, des caractères qui étaient les plus intéressants pour les agriculteurs, pour les hommes qui consommaient ces nourritures. Et puis ils ont appris à les préparer, faire du trempage, du lavage, du séchage, de la cuisson, etc., qui a permis justement d'éliminer la plupart de ces molécules antinutritionnelles. Ils ont appris à mélanger les aliments. Alors, j'en ai pas parlé, je vais pas le développer, mais pour avoir une alimentation équilibrée, il faut mélanger justement céréales et légumineuses en termes de protéines pour avoir une diète équilibrée en protéines.
Et ça fait longtemps que les humains se sont rendus compte de ça ?
Ah oui, pas mal de temps. Ils ont pas attendu l'arrivée de la nouvelle
diététique. Des nutritionnistes.
Ça date de plusieurs milliers d'années. Et puis, parmi les inventions qui ont été intéressantes, celle du levain en particulier pour faire le pain. Le levain, c'est un mélange de levures et de bactéries lactiques qui, au moment de la cuisson, vont commencer à couper l'amidon et donc à le rendre plus digestible et à éliminer également certaines molécules antinutritionnelles. Donc ça, c'est l'adaptation culturelle. Et puis, inversement, à partir du moment où les êtres humains ont consommé des céréales, du pain en particulier, eh bien, les hommes ont dû s'adapter à cette nouvelle nourriture. Et on peut dire que les individus les mieux conditionnés, les mieux pourvus pour la digérer, ont été sélectionnés par les céréales et les légumineuses. Hein, et c'est Jonathan Silverton, un géographe biologiste, qui a écrit « Le pain nous a domestiqués ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Alors, il serait intéressant dans cette émission, si nous avions le temps, d'évoquer les mythes fondateurs qui vous passionnent aussi dans l'agriculture et les sociétés humaines, mais je pense qu'on va manquer de temps.
Donc, c'est dommage.
On fera une émission une fois, ultérieurement. Mais voilà, on va évoquer l'agriculture, effectivement, en France. Qu'en est-il depuis l'invention de l'agriculture ?
Alors, donc, l'agriculture n'a pas été inventée en Europe. Il faisait trop froid en Europe, tout simplement. Et l'agriculture qui est arrivée en France est arrivée il y a à peu près 7800 ans, effectivement. Et elle va connaître, comme dans le reste du monde, plusieurs révolutions agricoles successives. Donc, la révolution du néolithique avec l'invention de l'agriculture, c'était des cultures sur abattis brûlis, c'était des rendements très faibles. Ensuite, à l'Antiquité, il y a eu la révolution agricole antique où les gens se sont mis à pratiquer la jachère, à utiliser l'arère.
Hein, pour l'arère, c'est une charrue.
Une sorte de charrue qui gratte le sol en surface. Ensuite, au tournant du premier millénaire, on a eu la révolution agricole médiévale, hein, où on a toujours utilisé la jachère, mais la charrue est apparue, qui permet de retourner la terre, effectivement, de mieux la travailler. C'est l'apparition du collier, du joug, qui est plus facile à tirer pour les bêtes. Hein, voilà. Avec l'entrée dans le 16e siècle, on a eu ce qu'on a appelé la première révolution agricole des temps modernes, avec l'arrivée notamment de nouveaux produits du Nouveau Monde. Et puis, nous sommes rentrés avec le XXe siècle dans la seconde révolution agricole des temps modernes, avec ce qu'on appelait la révolution des hybrides et des biotechnologies, le progrès de la mécanisation, des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, une sélection variétale beaucoup plus poussée, une spécialisation des cultures, avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, nous avons évoqué dans la nourriture des humains la prédominance des céréales et des légumineuses. Nous allons revenir sur le pain et la farine pour illustrer l'importance d'une culture et des aliments dans l'histoire. Et qu'en est-il des légumineuses ? Alors, vous en avez cité quelques-uns, les pois, les lentilles, les fèves, les pois chiches. Quel était son rôle à l'alimentation ?
Alors, les légumineuses sont ce que l'on a appelé la viande des pauvres, parce que la majorité de la population vivait pauvrement, chichement, et n'avait pas la capacité de manger de la viande, en tout cas régulièrement. En revanche, effectivement, les légumineuses sont une source de protéines, et ça a été la source de protéines essentielle pour la grande majorité de la population. Donc les légumineuses ont eu un rôle vraiment majeur. Mais elles ont été beaucoup moins valorisées, beaucoup moins évoquées dans les textes. Hein, les textes, ils sont toujours écrits par les élites intellectuelles, les politiques, les religieux, etc., qui, eux, je dirais, ne souhaitaient pas manger de légumineuses, ils préféraient la viande, les volailles, etc. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les légumineuses, ça pousse relativement au ras du sol. Hein. C'est une nourriture terrestre, contrairement aux céréales qui sont des nourritures aériennes.
Qui s'élève vers le ciel.
Qui s'élève vers le ciel. On est dans des périodes extrêmement chrétiennes. L'Église catholique, le christianisme sont très présents, on se rapproche de Dieu. Et donc, il faut être le plus aérien possible. Et vous avez même des médecins qui prétendent que le système digestif des élites n'est pas le même que celui, effectivement, de la basse population. Donc, ce sont des nourritures terrestres. Bon, par ailleurs, effectivement, quand on mange des légumineuses, ben, ça provoque des flatulences, des vents, etc., ce qui n'est pas très distingué. Et puis, ce sont également des nourritures de pénitence que l'on mange pendant le carême. Et là, bon, toujours ce souci des élites sociales de se distinguer de la masse et de ne pas manger la même chose qu'eux. Donc voilà, très importante, mais finalement peu évoquée dans les textes et dans l'histoire.
Donc on y revient maintenant, parce que beaucoup de végétariens reviennent vers les légumineuses.
Exactement.
Justement, pour leur apport en protéines.
Ce sont d'excellentes sources de protéines.
Mais au-delà des céréales et des légumineuses, il y avait aussi des plantes maraîchères.
Oui, bien entendu. Avec notamment la généralisation des plantes sarclées, tout ce qui est légumes, salades, navets, choux, pommes de terre, quand elles sont arrivées du Nouveau Monde, betteraves, carottes, oignons, ail, etc. Consommation de fruits, de châtaignes, de champignons. Et puis, culture également de fibres pour les habits. Hein, le lin, le chanvre, l'ortie étaient cultivés largement, donc végétaux, pour s'habiller.
Oui, l'agriculture a servi aussi à d'autres...
Pas uniquement à manger, également un peu à s'habiller.
Alors, on va revenir sur le rôle du pain, parce qu'en fait, quand on évoque effectivement le français, la caricature du français avec sa baguette, c'est quelque chose qui est assez ancien. Mais quel a été le rôle du pain dans la hiérarchie sociale et la vie politique française ?
Alors, le pain, la farine et le pain sont l'aliment principal du peuple. Hein. Jusqu'au XVIIIe siècle, hein, donc c'est il n'y a pas longtemps, 80 à 85% de la ration alimentaire des gens du peuple, c'était du pain. Les adultes consommaient 1 kilo à 1,5 kg de pain par jour et par personne. Et le reste qui allait avec le pain, les légumineuses, les fruits, etc., on appelait ça le compagnage, c'est-à-dire qui va avec le pain. Le compagnon, c'est celui avec lequel on partage le pain.
Donc le pain était l'élément essentiel et le reste, c'est la garniture.
C'était l'élément essentiel. Donc, pour ne pas mourir de faim, on devait manger du pain. Donc il y avait un enjeu politique majeur, hein, à la base, je dirais, du contrat social entre le roi et son peuple. Le roi, c'est ce qu'on appelait le lieutenant de Dieu, le lieutenant de Dieu. Il était roi par la grâce de Dieu. Mmh. Or, c'est Dieu qui a donné la vie aux hommes, et c'est Dieu qui a eu la responsabilité de les faire vivre en leur donnant de quoi manger. De la farine, du pain, des céréales. Donc, pendant très longtemps, le pouvoir royal a contrôlé le prix de la farine et du pain pour permettre au peuple de survivre ou de vivre tout simplement.
Mais c'était, il y avait deux sortes de pain, parce que là aussi il y a une couleur qui est différente. Il y a un pain qui était plus raffiné que l'autre. Celui des nobles et des bourgeois n'était pas le même que celui du peuple.
Ah, tout à fait. La couleur du pain, c'est un marqueur social. Hein. Le blé donne le pain blanc pour les riches, pour l'élite. L'orge, le seigle, donne le pain gris, le pain noir, hein, pour les gens du peuple. Et donc, Marc Bloch, qui était un historien français de la première moitié du XXe siècle, écrira « À travers les siècles, point de critère de classe plus net que celui-là ». Alors, pourquoi effectivement le pain blanc est pour les élites ? C'est toujours pour la même raison que celle que j'ai citée tout à l'heure. Il faut se rapprocher de Dieu. La pureté de Dieu, la pureté de l'hostie, c'est la blancheur. Donc, plus on mange une nourriture claire et blanche, plus on se rapproche de Dieu. Et plus on s'en éloigne, et bien plus la couleur diminue. Donc, volonté des élites sociales de se distinguer du reste du peuple.
Mais on a utilisé aussi les céréales en guise d'impôt.
Oui, c'est-à-dire que les agriculteurs qui cultivent effectivement le blé, le froment, ils le vendent, ils payent l'impôt avec, mais ils ne le mangent pas. Ils n'ont pas les moyens. Voilà, donc, et l'impôt représentait plus de 50% des revenus des agriculteurs à l'époque, hein, donc c'était énorme.
Oui, donc le prix du pain est un enjeu de politique intérieure.
Exactement, et de très nombreuses révoltes, jacqueries, ont eu comme origine effectivement le manque de pain ou l'augmentation du prix du pain. Alors si on regarde les siècles qui ont précédé la Révolution, par exemple le XIVe siècle, hein, c'est le siècle terrible. D'un point de vue climatique, on termine une embellie de 4 siècles de bonne température. Et là, on retombe dans des températures froides. Très mauvaise récolte. 14e siècle, c'est la guerre de 100 ans, avec toutes les réjouissances qui vont avec. C'est le siècle où il y a eu les grandes épidémies de peste, la peste noire. Ça a été un siècle absolument terrible. En l'espace de 50 ans, la France a perdu 40% de sa population. C'est dingue, c'est énorme. Immense. On est passé de 20 millions à 12 millions. Il y a eu énormément de morts. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré, mais jusqu'au 18e siècle, ça a été difficile. Et le 18e siècle, juste avant la Révolution, en 1775... on a la libéralisation du commerce des grains. Ça veut dire que le pouvoir royal ne contrôle plus ça. Et lorsque les cultures sont mauvaises, parce que le climat est mauvais, le prix du pain s'envole. Quand on voit ce qui restait aux agriculteurs et aux gens du petit peuple en termes d'argent après avoir payé l'impôt, 50% de ce qui leur restait servait à payer le pain. Imaginez, mauvaise récolte, les prix qui sont multipliés par 2, 3, 4... On ne peut plus acheter du pain pour la famille. On meurt de faim. Et ça provoque des révoltes. Donc, c'est la guerre des farines. Et puis ensuite, il y a eu effectivement le volcan Laki d'Islande qui, en 1783, est entré en éruption, qui a entraîné 5 années de très mauvaises récoltes, d'un temps très froid, climaté froid, avec de nouveau une envolée du prix de la farine et des disettes, et effectivement,
c'était terrible. Et là, on arrive à évoquer la Révolution française. Effectivement, elle a des multiples causes, mais le prix du pain et de la farine ont joué un rôle important.
Ça, c'est indubitable. Ça n'a pas été la seule cause, mais c'est une des principales causes. Souvenez-vous, je ne vais pas refaire la Révolution française.
L'émission ne suffirait pas.
Voilà. Deux points cependant. Souvenez-vous, le 5 octobre 1789, c'est le jour où les femmes de Paris qui n'ont plus de pain montent à Versailles, hein, vers le roi, pour dire « nous on veut du pain », pas tant de longs discours. Et le lendemain, elles ramènent aux Tuileries, le roi, la reine, le dauphin, etc. Et elles disent « nous ne manquerons plus de pain ». Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Au-delà de la formule, c'est très fort comme symbole. Nous ramenons avec nous la personne qui va pouvoir nous faire vivre, qui va pouvoir nous donner du pain.
C'est le contrat social entre le roi et
son peuple.
Et
c'est le contrat social qui a été battu en brèche avec la libéralisation des prix. Et puis, deuxième élément de la Révolution, donc au moment, vers la fin de la Révolution, avec la Convention, une des premières mesures de la Convention, c'est d'écrire, bon, voilà, la richesse et la pauvreté doivent disparaître du régime de l'égalité. Il ne sera plus composé un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre, mais tous les boulangers seront tenus, sous peine d'incarcération, de faire une seule sorte de pain, le pain égalité. Donc à base de farine, de froment, de seigle, de son, etc. Donc c'est encore une fois un symbole extrêmement fort de l'égalité des gens devant la loi. C'est le pain, c'est ce qui fait vivre.
Et alors aujourd'hui, qu'en est-il de l'alimentation ?
Alors je dirais que à partir du 19e siècle, tous les Français commencent à être mieux nourris sur le plan quantitatif. Donc les nourritures de base sont toujours les céréales, le blé, etc., les légumineuses. Les pommes de terre qui sont arrivées du Nouveau Monde commencent à être bien consommées. Les légumes, les fruits sont effectivement plus consommés. La viande, le lait, les poissons, un petit peu plus consommés, mais ça reste cher quand même. Hein. Voilà, pendant le siècle qui suit. Et c'est au XXe siècle que les progrès de l'agriculture en termes, donc, comme je le disais tout à l'heure, de mécanisation, fertilisation, sélection variétale, etc., font que, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en France, la nourriture proposée est assez variée et relativement équilibrée. Je dis la nourriture proposer, hein, pas forcément consommer.
Et du fait des échanges internationaux, les Français ont effectivement consommé des produits qui n'étaient pas de leur sol. Il y a eu beaucoup d'apports extérieurs.
Absolument. Et c'est grâce ou à cause du système commercial proposé. C'est un système qui est basé sur production et consommation. Et donc on fait venir de l'autre côté du monde des aliments qui vont effectivement compléter les aliments que l'on a sur place. Mais avec tous les travers que l'économie peut susciter, effectivement. Mais donc, à ce moment-là, en France, depuis 1950 à peu près, nous avons une abondance de nourriture et de produits de consommation. Et les problèmes que nous avons vis-à-vis de ça sont des problèmes, je dirais, de pays riches. Hein. En situation de surabondance de nourriture, on se trouve confronté à des problèmes de transformation des aliments, de déséquilibre alimentaire, non pas dans ce qui est proposé, mais dans ce qui est consommé, hein, avec des excès de sucre, de produits gras, des manques de fibres alimentaires, manque de certaines vitamines. Hein, et donc, certains modes de consommation sont boostés par la publicité, et pas seulement par la santé, hein, pour le bon sens de la santé, avec l'émergence de maladies de pays riches, telles que l'obésité ou certaines maladies cardiovasculaires.
Donc c'est à partir de ces constats-là qu'on pourra effectivement évoquer les enjeux actuels. Parce que, comme on l'a dit au début, on fera une deuxième émission sur les enjeux et les solutions possibles. Mais pour vous, actuellement, quels sont les enjeux vis-à-vis de l'agriculture ?
Alors, les enjeux de l'agriculture pour le futur, je dirais, de notre monde, sont d'abord l'accès des populations les plus pauvres à une nourriture suffisante et équilibrée, hein, en particulier pour les besoins en protéines. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point extrêmement important qui nous touche particulièrement en Europe et en France, c'est de réduire les impacts négatifs des cultures sur l'environnement et le climat, avec la pollution des eaux, des sols, des aliments également par tout ce qui est engrais, produits phytosanitaires, le développement de la lutte biologique, hein, qui est menée notamment à l'INRA de Sophie Antipolis. Et puis, il y a des questions qui se posent, qui sont peut-être plus philosophiques et à long terme, mais de savoir quel doit être le statut des produits alimentaires de base. Est-ce qu'ils doivent continuer à être soumis aux lois du marché et à être marchandisés sans contrôle de l'État, ou est-ce qu'ils doivent être sacralisés et revenir finalement sous une forme de contrôle de l'État, comme le pouvoir royal à l'époque contrôlait le prix de la farine et du pain? Et ça, c'est une question de société.
Il y a aussi un enjeu qu'on n'a pas évoqué, mais ça demanderait peut-être un développement plus grand, c'est l'accès à l'eau. Concerne à la fois la nourriture, l'agriculture et la survie des gens. On a vu des guerres autour de points d'accès à l'eau. Est-ce que vous l'intégrez dans ces sujets d'enjeux, ou c'est un point tellement spécifique qu'il faudrait On ne peut pas l'envisager de le traiter à part.
Alors, l'accès à l'eau, ça dépasse le problème de l'agriculture. Hein. L'eau n'est pas utile seulement pour faire pousser les plantes, mais pour faire boire les gens et puis pour toutes les applications qu'on peut avoir. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis 30 ans, 40 ans peut-être, le problème de l'accès à l'eau était un problème, je dirais, conjoncturel, qu'il était lié au climat, avec des périodes dans lesquelles on avait moins de précipitations et qui faisait que dans certaines parties du monde, les tensions étaient fortes. Aujourd'hui, c'est un problème structurel. Le monde dans lequel on est, avec l'augmentation des températures en particulier, fait que le manque d'eau touche à peu près tous les continents. Et quand on regarde la somme des conflits autour de la planète aujourd'hui, vous en avez au minimum la moitié pour lesquels la question de la répartition de l'eau est un élément crucial. Donc l'eau, effectivement, c'est extrêmement important. Bon, ça dépasse, je dirais, mes compétences de développer ça, et puis il faudrait plusieurs émissions rien que pour aborder le sujet, mais oui, le problème de l'eau fait partie des problèmes liés à l'agriculture. Mais c'est bien plus important que ça.
C'est au-delà. Merci beaucoup. Nous prenons le temps d'une troisième pause musicale avec Manic, Garder sa terre, avant de passer à la conclusion.
Ils ont trouvé la terre abandonnée dans son sommeil, une portion de terre entrebâillée sous le soleil. Ils ont creusé longtemps avec leurs ongles, avec leurs mains, le cœur aiguillonné par des enfants qui avaient faim. Garder sa terre est difficile quand il faut survivre au Brésil. Garder sa terre est difficile quand il faut survivre au Brésil. Le sol a donné de quoi sortir de la misère aux maigres héritiers de ce qui fut un champ de pierre. Les gros propriétaires se sont déclarés brusquement possesseurs titulaires appuyés du gouvernement. Garder l'espoir est difficile quand l'argent ripaille au Brésil. Garder l'espoir est difficile quand l'argent ripaille au Brésil. Battre le cœur du paysan et de sa terre à l'heure de vent danger, les raisins noirs de la colère, Ensemble, ils ont choisi d'affronter même les soldats. Quand ceux-là sont venus pour les priver de tous leurs droits, se taire encore est difficile. Quand on emprisonne au Brésil, se taire encore est difficile. Quand on emprisonne au Brésil, se taire encore est difficile. Sur ce qui se passe au Brésil, se taire encore est difficile. Sur ce qui se passe au Brésil.
Nous terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir à l'invention de l'agriculture et à ses conséquences sur les sociétés et les droits humains, avec notre invité Renaud Broukis. Est-ce que vous voudriez revenir sur un point qu'on n'a pas forcément détaillé et qui vous tient à cœur, qui vous intéresse particulièrement ?
Alors, ce ne serait pas une conclusion, mais un petit retour sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure par rapport à, finalement, à l'universalité du rôle des céréales. Au moment, effectivement, où l'agriculture est inventée, un peu partout dans le monde, c'est un moment où les gens commencent à se poser des questions, qui se posaient déjà avant, mais qui commencent vraiment à verbaliser. Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Pourquoi est-ce que le monde dans lequel je vis a été fabriqué ? Et pour répondre à ces questions, les hommes vont imaginer finalement des récits fondateurs, des mythologies qui permettront d'expliquer finalement la structure et l'ordre du monde d'un côté, et d'autre part, comment et pourquoi les hommes sont apparus. Et c'est ainsi que pratiquement tous les récits fondateurs racontent que le monde et les êtres humains ont été créés par un ou plusieurs dieux, hein, et que les humains étaient là pour les servir. Et pour faire vivre les hommes, les dieux ont donné l'agriculture, et les céréales en particulier, aux êtres humains pour les faire vivre. Donc les céréales sont un don vital des dieux aux hommes, d'où la place centrale, effectivement, que l'on retrouve dans les mythologies, mais même les religions actuelles, la place centrale du pain. Hein, le pain qui est cultivé, qui est produit par l'homme et qui lui donne sa dignité humaine. Hein, ça, c'est très important. Ce qui, d'un certain point de vue, va permettre à l'époque de justifier l'ordre et le fonctionnement de la société, en ce sens que si effectivement c'était les dieux qui avaient créé ce monde et toute la hiérarchie sociale, les maîtres et les esclaves, c'était la volonté des dieux.
Elle était inattaquable,
hein, ce qui était une bonne manière de justifier l'ordre établi. Voilà.
Merci beaucoup pour cette précision. Et en conclusion, donc vraiment ultime, est-ce que vous pouvez nous citer quelques ouvrages de référence qui pourront aider nos auditeurs dans cette réflexion ?
Alors j'en ai une petite centaine, mais je vais me limiter à trois. Comme ouvrage de référence, je vous recommande « Petite et grande histoire des céréales et des légumes secs » de Éric Berlouez, hein, qui est un agronome historien de l'histoire de l'alimentation. C'est passionnant. Un autre livre de James Scott, un anthropologue américain, qui a écrit « Homo domesticus », dans lequel il raconte effectivement la genèse des États, des cités-États et puis des empires que l'on a connus, qui sont tous assis sur l'invention et l'établissement de l'agriculture. Et puis ensuite, vous avez un autre ouvrage de Jared Diamond, qui est également anthropologue, géographe et biologiste, qui traite de l'inégalité parmi les sociétés, dans lequel il explique finalement comment le monde actuel s'est construit, sur la base de quoi, hein, et l'agriculture y tient une place centrale. Voilà, c'est les trois ouvrages que je voulais citer.
Merci beaucoup Renaud Broukis d'avoir été si passionnant au cours de cette émission. Vous pouvez la réécouter en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Elle sera par ailleurs rediffusée lundi 4 mai à 21h. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains le lundi 18 mai pour la seconde partie de cette émission qui sera consacrée aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle et aux options possibles pour l'avenir. Merci et bonne soirée.